Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussy.
Il est 10h07 sur RMC, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport. On vous accompagne toute la matinée jusqu'à midi avec Marion Bartoli, Simon Dutin, Denis Charvet et Cédric Emence. On vous rappelle aussi qu'on vous fait gagner deux places pour la finale de la Coupe de France Crédit Agricole RC Lens OGC Nice. Ce sera le 22 mai au Stade de France. Pour ça, rien de plus simple, vous envoyez dès maintenant le mot finale au 732-16. Finale au 732-16. Le tirage au sort sera effectué demain dans l'émission entre 9h et midi. Dans une semaine maintenant, ce sera le grand début de Roland-Garros, le grand chelem parisien, le seul et l'unique sur terre battue. Et en l'absence du tenant du titre, Carlos Alcaraz, un noble semble seul au monde. C'est le numéro 1 mondial, Yannick Sinner.
RMC, le ring des GG.
Yannick Sinner qui décroche le titre.
For the first time, Novak Djokovic is beaten in the opening round. Bro.
De revers, c'est fini. Troisième titre majeur pour Yannick Sinner. Je me sens seul.
L'info est confirmée, donc je vous la donne. Carlos Alcaraz ne participera pas à Roland-Garros.
Revers long ligne de Yannick Sinner qui décroche le titre. C'est du grand art, c'est chirurgical. C'était trop clinique, c'était trop fort. C'est Yannick Sinner.
On ne remercie pas Maxime Abolin parce qu'on aura la chanson dans la tête toute la journée dorénavant.
Mais c'est bien résumé, Roland-Garros.
C'est Corneille. Ah, oh, il m'a dit c'est qui
seul.
Mais
par
Simon.
Contre, ça résume parfaitement Roland-Garros. Ah, il est
oui,
seul au monde.
Voilà. Exactement. On aurait
je
tous aimé.
Je pense qu'ils ont fait exprès de mettre cette chanson.
Ouais, je pense que.
Je pense qu'il y a une petite recherche éditoriale quand même. Hein. On aurait tous aimé pouvoir revivre cette année la finale épique de la saison dernière entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. 5h29 d'une bataille de chaque instant, finalement remportée par le jeune espagnol pour un deuxième titre consécutif. Le duel était annoncé, attendu par tous, mais il n'aura finalement pas lieu. Alcaraz, touché au poignet, a annoncé son forfait pour le grand chelem parisien. Résultat, Yannick Sinner est désormais le grandissime favori et paraît même seul au monde, donc après la méforme de Novak Djokovic. Éliminé d'entrée à Rome, le forfait de Lorenzo Musetti, demi-finaliste la saison dernière à Roland, les déceptions d'Alexander Zverev et la blessure d'Arthur Fils. On va en parler avec Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut Eric.
Eric, je te demande s'il te plaît, ce matin, de nous vendre un petit peu de suspense et d'intérêt pour ce Roland-Garros.
De vraie confiance, j'ai beaucoup travaillé dessus. Alors d'abord, hier soir à Rome, Yannick Sinner a montré des signes inhabituels de faiblesse. Après un premier set mené tambour battant face à Daniil Medvedev, l'Italien a marqué le pas, on l'a vu vomir, être pris de tremblement à un changement de côté. Mais devant son public, il a puisé loin pour se détacher 4-2 au troisième set. La partie reprendra vers 15h. Ça veut dire qu'il est humain et que cela redonne espoir à ses rivaux. Maintenant, il reste l'incontestable favori de Roland. Je me suis creusé la tête pour lui trouver un parcours du combattant qui pourrait l'amener au point de rupture et l'empêcher de soulever son premier titre Porte d'Auteuil. Ça va beaucoup dépendre du tirage au sort, mais c'est peut-être pas tout à fait une fiction. Premier tour, je mets dans les pieds Grigor Dimitrov. Sorti des qualifs, le Bulgare a l'occasion de prendre une revanche sur le match de Wimbledon où il était en train de martyriser Sinner avant de se blesser, on s'en souvient tous. Match somptueux, Sinner s'en sort de justesse, mais il a laissé des plumes, d'autant qu'il faisait très très chaud. Deux jours plus tard, il croise la route d'un jeune Espagnol insouciant, Martin Landalus. Quart de finaliste à Miami et Rome. Là encore, il est chahuté. Troisième tour contre la révélation de ce printemps, Raphaël Rodard, tête de série 27. Grosse intensité physique, Sinner gagne en 5 à l'arrache. Touché physiquement, le numéro mondial n'a pas le temps de respirer. Arthur Fils se dresse sur sa route. La Night Session a attiré le tout Paris. L'excitation est à son comble. Les joueurs du PSG qui ont remporté la Ligue des Champions la veille sont au premier rang de la présidentielle. L'ambiance est incandescente, hostile même. Le combat est fantastique. Il est 23h quand la cinquième manche débute. Et là, je me réveille.
Non, mais Eric, tu viens de me le vendre. Tu viens de me le vendre, c'est bon. Parfait.
Mais on se réveille tous, du
parfait,
coup.
Bravo, Eric.
Il va l'invendable. C'est super.
23h, début de la cinquième manche, donc ça fait 3h pour 4-7. C'est assez rapide.
C'est tout à fait possible.
C'est assez rapide,
Non, c'est qu'est-ce qu'il y aura de vrai dans tout ça?
Oui.
Nous verrons évidemment dans cette Alors, les GG, je vous pose cette question ce matin. Craignez-vous un grand chelem parisien au rabais? Simon.
Oh que non.
Cédric.
Non, mais non, on vient de me le vendre. Je vis dans bien.
Marion.
Alors, sans la vente d'Eric, assez peu plausible, j'ai quand même, je vous l'avoue. Non, ça ne sera pas un Roland-Garros au rabais.
Denis.
Oui, bien sûr.
Alors, c'était le sondage ce matin. Denis, tu n'es pas seul, puisque 71% des gens qui ont voté sont d'accord avec toi. Ça risque d'être.
Je suis oui, c'était l'ironie.
C'était une vanne.
Ah oui,
très bien.
J'ai l'impression que je suis passé à côté de ma vanne, mais.
Oui, un petit peu.
Ouais. Juste parce que le sondage, il a les pourcentages du sondage.
Tu t'es rabattu d'air, la majorité. Bravo.
C'est Eric
qui m'a vendu lui-même. Ouais.
Alors j'ai envie d'entendre justement d'abord Denis qui a eu ce oui franc et convaincu contrairement à Cédric.
Mais au rabais, pourquoi ? Parce que un événement où tu connais déjà le vainqueur.
Mais on ne connaît jamais le vainqueur.
Si, là,
mais
y a, non. Y a pas.
Alors quand on connaît la finale, non, c'est non, vraiment le.
Mais il n'y a aucun feu. Il n'y a aucun joueur qui va rivaliser contre lui. Il marche sur l'eau depuis deux mois, sur terre battue. Alors là, tu me parles d'hier, mais bon, c'est un petit incident, c'est un petit couac. Je pense pas que ce soit.
Le match va se terminer aujourd'hui.
Je l'ai vu le match. Bon, c'est vrai qu'il est. Mais au troisième set, il est allé. Mais il a fait la différence. Il gagnera aujourd'hui. Tu le sais très bien, Eric.
Il avait un break d'avance, effectivement, quand le match s'est arrêté.
Après, moi, je trouve qu'en Roland-Garros, alors, moi, je suis fan du joueur, de sans Alcaraz, c'est pas un Roland-Garros. Mm-mm. C'est pour ça que je dis oui, surtout, c'est que moi, il me manque l'étincelle, il me manque le spectaculaire, ce mec qui est hors norme, qui a un jeu qui est hors norme, qui est le seul à avoir ce jeu, d'ailleurs.
Et Sinner,
il m'ennuie, voilà. Donc,
Denis, je suis d'accord avec toi.
On parle de quoi? Du joueur? De l'homme? Non, pas l'homme.
D'accord. Je vois bien l'immense joueur qu'il est, mais moi il me fait pas rêver, c'est tout. Après, je ramène encore son match hier soir. Il tape très fort, il sert tout très fort.
Mais c'est pas le jeu que t'apprécies.
Moi, je dis oui parce que je suis d'accord avec Denis, mais pas un très beau champion, il faut de l'adversité. Mm-hmm. Et là, alors je dis pas que c'est.
Pas de souci,
je dis pas que Sinner n'est pas
ça,
un
la chanson seul au monde.
Il y en aura l'adversité.
Ouais, mais pas au niveau de Sinner. Je pense que il va balayer, ça va aller vite, on connaît, et c'est ça qui amène peu d'intérêt.
On n'a pas envie d'une finale en 3-7, c'est ça.
Voilà, exactement, on n'a pas envie parce que Roland le mérite pas, parce qu'il faut de l'adversité, tous les grands champions, il y a eu des grands duels, et j'ai peur que cette année, uniquement cette année, il n'y ait pas grand chose.
Mais surtout pour finir, il n'y a plus aucun joueur qui est très en forme aujourd'hui, qui montre un signe de pouvoir dominer Sinner.
De pouvoir rivaliser en tout cas avec le numéro 1 mondial.
Dominer, c'est bien, mais au moins rivaliser.
Alors Marion nous dit que si, justement, il va y avoir de l'adversité. Donc on a envie de t'entendre là-dessus, Marion.
Moi, en fait, j'aimerais vous rappeler la jurisprudence Novak Djokovic 2011. Parce que là, effectivement, alors avant, on ne connaît pas le dénouement final de ce match contre Daniil Medvedev, mais pour l'instant, en tout cas, Yannick Sinner, avant ce match contre Daniil, avait passé le record de Novak Djokovic, qui détenait son propre record, parce qu'Novak en avait deux. Roger Federer était à 29 victoires consécutifs en Master 1000, puis il y a eu Novak, il y en a eu 30, puis Novak 2011, 31, puis là, Yannick Sinner, 32. Il faut quand même se rendre compte que dans les 31 victoires de Novak, il devait battre Rafa, Roger à chaque fois en demi ou en finale, donc c'était quand même d'autres adversaires. Mais néanmoins, Yannick a eu effectivement ce record. Et donc, pourquoi cette jurisprudence 2011? Parce que Novak Djokovic est arrivé à Roland-Garros en 2011 avec une domination quasi supplémentaire à celle de Yannick Sinner, puisqu'il bat Rafa Nadal deux fois en finale de Madrid et de Rome, deux finales de Master 1000 en 2-7 consécutivement sur terre battue. Il avait gagné les 7 trophées consécutifs, donc il avait gagné l'Open Australie, Dubaï, Indian Wells, Miami, Belgrade, Madrid, Rome. Tu gagnes Madrid et Rome en battant le roi de la terre, Rafael Nadal. Il arrive en demi-finale de Roland-Garros. Il a même pas un quart à jouer parce qu'il devait jouer Fonini qui est blessé, qui fait forfait. Il arrive contre Roger Federer. On sait très bien que Roger c'est pas sa meilleure surface.
C'est un joueur de terre battue.
Ouais. Il prend 4-7 contre Roger qui lève le doigt comme ça à la fin du match en disant attention, Novak n'est pas le seul au monde. Donc, ce n'est
Donc tout peut arriver, c'est ce que tu nous dis.
Et même si effectivement, je me moque tendrement d'Eric, mais il a raison dans sa manière de penser. On a des scénarios et on le voit parfaitement sur le match d'hier. Il a plu toute la journée, les conditions sont extrêmement lourdes. Il devait commencer à une certaine heure, il commence plus tard. Il a un Daniil Medvedev qui se met 4 mètres derrière la ligne, qui lui fait des rallyes de 20-25 balles à chaque fois. Mais attends, mais là c'est 3-7.
Les pragmatismes.
Mais là c'est un élément qui est important, c'est 3-7. C'est 3-7 sur Rome. Là,
Marion, qu'il va falloir un paquet de circonstances.
C'est 5-7 sur Roland-Garros. Oui, mais Roland est fait de paquets de circonstances différentes. Parce que Roland-Garros, entre un tournoi où il va faire 8-10 degrés comme aujourd'hui, t'as le toit fermé, les conditions sont lentes, c'est humide. Moi, ça fait 4 jours que je m'entraîne avec mes joueuses. Au bout de 3 jeux, les balles, c'est des ballons de foot. Elles sont énormes pour faire avancer la balle. C'est difficile. Bien sûr que s'il joue par 27 degrés tous les jours et qu'il fait soleil pendant 15 jours, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent rivaliser, bien sûr. Mais n'oublions pas l'Open d'Australie. Qui autour de cette table aurait pensé qu'en demi-finale l'Open d'Australie, Novak Djokovic aurait été capable de le battre. Qui ? Personne. Non, soyons honnêtes. Personne.
Il faut être honnête. Simon, tu vas dans le sens de Simon.
Yannick aurait gagné à l'avance Open d'Australie. Au final, Novak Djokovic, pendant 5 heures, il est resté sur sa ligne de fond, il a joué dans les longues lignes à chaque fois et il a tapé Yannick Sinner. Donc non, c'est pas fait à l'avance. Et quand même, j'ai quelque chose que j'aimerais souligner, s'il le fait, c'est monstrueux. Parce que je veux bien qu'on mette à chaque fois au rabais. Ça me rappelle les 14
victoires. Faut pas banaliser, ouais.
Voilà. Ça me rappelle les 14 victoires de Rafa. On était là tous autour de dire, mais de toute façon, c'est fait à l'avance. Ouais, mais il va gagner. Aujourd'hui, enfin, l'année dernière, quand on fait l'hommage à Rafa et Nadal, on se rend compte ce que c'est que de gagner 14 fois Roland Garros.
Simon.
Oui, moi je pense qu'on a tort de se gâcher le plaisir par avance, parce que Roland Garros c'est patrimoine national.
Et toi, c'est la nostalgie, c'est les petites étoiles quand tu penses à Roland Garros.
Oui, moi je me souviens quand le club de tennis nous emmenait passer la journée à Roland, en quatrième vitesse, le cours numéro 14. Bon, ça va faire plaisir à Eric, les magnums à 15 euros, la bouteille des viands à 20 euros dans les allées.
S'asseoir
devant le cours, devant l'enceinte du cours numéro 1 qui a malheureusement disparu, mais je veux dire,
là, c'est
transat.
Nostalgie, ça.
C'est le romantisme.
C'est pour me dire que moi, à l'époque où je jouais au tennis, le premier Roland dont je me souviens, c'est la victoire de Chang en 89. Il a 17 ans, il sert à la cuillère, il est 20e ou 30e mondial, j'en sais rien, personne ne le connaît. Bon, il y a eu la victoire de Curtain en fin des années 90. Je veux dire, il y a des. Je crois que l'année où tu vas en demi, c'est Lina, une chinoise qui gagne. Je veux dire, et finalement, ces éditions, on s'en souvient. Alors, évidemment, peut-être que c'est quand même Sinner qui va gagner, mais là, je parle sous le contrôle des spécialistes. Il va manquer quand même son contrepoids à l'autre bout du tableau. Il n'est pas exclu que ça déstabilise un petit peu, que ça crée un petit peu d'anarchie dans ce tableau masculin et que.
Ça va au bout des portes, en tout cas.
Le suspense, c'est quand tu penses qu'il va y avoir quelqu'un qui est capable de le battre.
Et
Rafa Nadal, même si on était convaincu qu'il allait gagner, il y avait de l'adversité.
Exactement.
Là, il roule sur
et
tout le monde.
Et tu peux te dire que la place laissée vacante.
Il y avait de l'adversité, tu veux que je te rappelle les finales de Roland, où Rafa a découpé Roger en 1h30 en 3-16.
Oui, mais la place.
Oui, mais d'accord. Mais il y avait deux monstres sur le court.
La place que va.
Pas Jarry en finale, ça je peux te l'assurer.
La place que va laisser Alcaraz dans ce tableau, elle va peut-être faire pousser les dents de certains joueurs qui vont se révéler. Et encore une fois, de toute façon, les plus grands souvenirs, c'est des remontadas sur des matchs en 5 manches, des
favoris. C'est des aventures, on en parlera aussi, mais comme Louis Boisson qui explose aussi à Roland-Garros.
Oui, ben moi,
Arthur arrive en demi, voire en finale, de toute façon, on aura Roland-Garros réussi.
Voilà, l'an dernier avec Louis Boisson.
La question, c'est pas ça.
Moi, je suis pour un gros parcours des Français et je souhaite que ça. Mais la question, c'est est-ce qu'il va rouler sur tout le monde?
Ben oui. Mais ça, on sait pas, c'est parce pas que on va convoquer un petit peu de mythologie. Regardez le mythe d'Achille et Hector. Écoutez, Achille le grec face à Hector le Troyen. Et lorsque Achille tue Hector, Achille ne s'appartient plus. Achille n'existe plus. Ouais. Et perd sa.
Tu m'as perdu.
Il faut replonger.
Mythologie grecque.
Regarde l'année où Novak Djokovic bat Tsitsipas en finale. Novak bat Rafa, on se dit c'est bon, la finale elle est faite, ça va faire 3-7. Il est mené 2-7 à 0 contre Tsitsipas. Et il remonte à l'arrache de l'arrache et gagne en 5-7. C'est jamais écrit d'avance à Roland Garros. C'est ça qui fait la magie.
Mais là, tu parles de quelque chose qui est possible aujourd'hui.
Mais oui, mais c'est possible. Regarde Medvedev. Hier, quand tu regardes le match contre Arom, tu te dis pas, non, mais attends, il se fait découper, il prend 2-1 et il n'y a pas de match.
Au troisième.
Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, alors, je parlais tout à l'heure de cette finale épique l'année dernière entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Les autres matchs en 5-7, faut les chercher quand même dans le tournoi l'année dernière.
On s'était ennuyé, tu as raison.
Il y avait une finale, mais on se souvient quand même de la finale.
C'est une surface vivante. Ça va dépendre de la météo. Sinner déteste la chaleur. Il a failli sauter en Australie s'il n'y a pas une interruption providentielle parce qu'il faisait plus de 40 degrés. Il passait à la trappe contre un obscur américain. Donc, il aime pas la chaleur. il suffit qu'il soit mal
proclamé. Et 3h40 de match.
Il n'aime pas la pluie, il n'aime pas le froid, il aime quoi?
Et il n'aime pas les longs matchs. Donc si,
mais c'est la vérité.
Mais qui peut l'emmener?
Le mec qui peut l'emmener au-delà des 3h40
de match. Il nous
dit, il n'aime pas le chaud.
Fais une extrapolation. Imagine-toi un huitième ou un quart de Roland-Garros. Fais une projection, une extrapolation du match d'hier qu'on a tous regardé.
Oui.
Si tu sais un match en 5-7 avec ce format-là, les 3h40, tu les dépasses. Hein.
Peut-être.
Mais largement.
Donc il ne peut pas
gagner. Mais tu penses que
c'est possible aux auditeurs qu'il puisse éventuellement
n'a jamais gagné un match qui a dépassé 3h50.
Oui. Oh, wow.
C'est très important.
Ça, c'est intéressant, effectivement, comme statistique. On a Franck qui est avec nous ce matin au 32-16. Salut Franck.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour. Bienvenue dans les GG, bon réveil à toi. C'est quoi ton avis justement dans ce ring et cet avis sur le Roland-Garros qui arrive ?
Eh bien moi j'étais plutôt plutôt d'avis que c'était pas du tout un Roland-Garros au rabais. J'étais plutôt d'accord avec tous les arguments de Marion et d'Eric. Je pense que s'il y a bien un tournoi où Sinner peut trembler et tomber, c'est bien celui-là parmi tous les grands chelems, parce que c'est peut-être la surface où il a le plus de faille. Et l'absence d'Alcaraz, oui, c'est préjudiciable, mais ça laisse une demi-partie de tableau qui reste complètement ouverte.
Mais tu parles de faille. Tu regardes Roland Garros l'an passé, il a aucune faille. Alors, il perd le match, évidemment, en finale, parce que c'est un match extraordinaire, mais je vois pas. C'est, ouais, mais étant donné qu'il n'y a pas Alcaraz, je vois pas qui peut aller le chercher.
Ben, on le voit hier, je sais pas si vous avez regardé le match, mais contre Medvedev, honnêtement, Medvedev, il pleure tout le temps dès qu'il joue sur terre, il déteste les balles, le terrain, il gueule tout le temps. Et hier, il se met dans son match et il arrive à l'accrocher.
Oui,
si
parce qu'il y a eu un problème physique, c'est pour ça aussi.
Ouais, mais des problèmes physiques, Sinner, depuis le début de l'année,
ça peut lui arriver.
Beaucoup, ça c'est sûr. C'est arrivé régulièrement, on le voit un petit peu. Bon, il est déjà pas très bronzé, il a un peu blême, mais des fois, on le voit encore plus blanc et avec une démarche un petit peu, chancelante. Et c'est pas la première fois où on le voit arriver. Et je pense que si ça lui arrive et que ça tombe le jour où c'est contre un joueur, je crois que c'est à Madrid, il perd aussi un set contre Bonzi. Bon, après, il rétablit tout ça, mais si ça arrive contre un Mentic ou des joueurs qui, quand ils sont en feu, sont capables d'envoyer des missiles dans tous les sens, il est pas à l'abri. Et puis,
alors se fait attraper. Vous la regardez, la finale?
Mais évidemment.
Bien sûr, c'est malade, mais c'est la finale de Roland-Garros.
Si Sinner, par rapport à ce que tu disais, Marion, tu regardes.
Faut penser au grand public aussi.
Mais il a joué au Stade Toulousain, le mec, évidemment. Il aime pas que les autres gagnent. Hein. Il faut que ça soit toujours la même équipe qui gagne.
Faut quand même rappeler un événement.
Il aime pas les outsiders.
Si Yannick Sinner perd, ça sera parce que le joueur en face aura fait le match de sa vie.
Ouais,
donc
match.
Bien sûr qu'on va suivre l'aventure de ce joueur-là et effectivement, alors il faudra bien sûr un concours de circonstances, il faudra une accumulation de choses, mais là où je rejoins totalement notre auditeur, c'est vrai que pour moi, les joueurs qui sont plus en capacité de le battre, c'est des joueurs qui vont le ramener dans des filières très longues. Et que finalement, les joueurs qui vont jouer dans sa filière, c'est-à-dire marquer beaucoup de coups gagnants, à ce jeu-là, Yannick Sinner est le meilleur sur Terre, ça c'est indiscutable et indéniable. En revanche, lorsqu'on est capable de le ramener dans des filières très longues, parce que le cours est lent, parce que les balles sont lentes, parce qu'il fait humide, parce qu'il fait lourd, parce qu'il fait froid, là, c'est plus difficile pour lui. Alors, je ne vous dis pas que effectivement, le dimanche, ce n'est pas lui qui va soulever le trophée, mais ce que je vous dis, c'est que c'est loin d'être acquis pour avoir été sur le terrain moi-même. Et encore une fois, je vous rappelle 2011 parce que c'est très, très important. Quand on est capable de battre en finale de deux Master 1000 Rafa, chez lui, à Madrid, qu'on lui met 2-7, qu'on va à Rome derrière, qu'on lui remet 2-7, qu'on est en demi de Roland-Garros et qu'on s'appelle Novak Djokovic et qu'on a absolument tout gagné, bah oui, le trophée vous tend les bras. Et au final, c'est quand même pas lui qui l'a soulevé cette année-là. Donc, ça reste loin d'être fait. Et d'ailleurs, Yannick Sinner le sait très bien. C'est pour ça qu'il va se préparer, comme jamais il s'est préparé, pour gagner ce Roland-Garros, parce qu'il lui reste plus grand-chose à gagner pour terminer le jeu de tennis.
Il lui manque celui-là.
Et s'il y arrive, ça sera absolument monstrueux.
Et d'ailleurs, quand bien même sa place en finale est déjà assurée, on va se régaler.
Le seul intérêt de Roland-Garros, c'est que Sinner gagne son premier trophée à Roland-Garros.
C'est la seule chose qui est intéressante. Mais pour la continuité, pour le palmarès.
Imagine une finale Casper Ruud, Medvedev. Imagine,
tu vois. Mais moi, Medvedev, quand il est sur le terrain, je me régale à chaque fois, parce que soit il déchire, soit il est capable de battre n'importe qui. Donc, voilà. Mais même un Sheldon, parce que qui va prendre la place d'Alcaraz, Eric, dans le tableau? C'est Zverev.
Zverev, ça trouve
tout en bas. Et Zverev, on n'a pas quand même la garantie, c'est pas.
Il vient de déclarer forfait pour le tournoi d'Hambourg, hein, Zverev. Il est
touché au dos.
On n'a pas la garantie que c'est Zverev qui va aller en finale. Et à ce titre-là.
Ça va dépendre de savoir quels sont les cadres qui seront dans la partie basse.
Mais là, on a entendu dans la production, effectivement, Novak Djokovic qui perd au premier tour à Rome. Mais attention, Novak Djokovic, en tournoi du Grand Chelem, c'est jamais le même.
Oui, on n'a pas c'est beaucoup parlé de même. Novak Djokovic,
c'est jamais le même. Et c'est quand même quelqu'un qui en a gagné 24. Et encore une fois, c'est celui qui a battu Novak Djokovic cette année à l'Open d'Australie en demi-finale. Donc attention à ce genre de joueurs aussi qui sont ce qu'on appelle en anglais les floaters. Donc ils sont là dans le tableau.
Sérieusement, Marion, toi, tu le connais bien, tu le vois aller loin dans le tournoi?
S'il se présente à Roland-Garros, c'est qu'il sera prêt. Donc il peut aller loin.
Très bien. Fort sûr.
Tu vois, c'est pas même accent.
Et Arthur Fils, avec les problèmes qu'il a de physique.
Arthur Fils, il sera prêt à 100%. C'était pas un problème. Il y avait beaucoup de fatigue accumulée. Tous les voyants sont au vert. Il a pas de blessure.
Il a perdu Sinner.
Voilà.
Il a perdu. J'aimerais quand même vous faire passer l'information. Vous minimisez les victoires en tournoi du Grand Chelem.
Mais non, pas du tout.
Mais pour avoir joué sur un court de tennis, je peux vous assurer que c'est tellement dur.
Mais c'est tellement
dur. Tu sais, ça me rappelle Serena Williams quand elle en a gagné 23. Ah, les tableaux, c'est bon, c'est Serena, c'est sûr que c'est pour elle. Mais c'est déjà, c'était gagner, pas acquis d'avance.
C'est non,
pas
raison, mais on dit pas ça.
C'est long effectivement, sur deux semaines. On a parlé rapidement d'Arthur Fils. Eric, t'as pas de petites nouvelles à nous donner?
Non, mais je crois qu'il va taper lundi à Roland, c'est ça, Marion, hein? Normalement.
Il sera prêt.
Voilà.
Il n'y a aucun problème.
Donc, on sera dès lundi sur les cours de Roland. Il y a le début des qualifs. D'ailleurs, je crois que Marion est impliquée. C'est une petite info.
J'ai deux joueuses qui sont en qualif.
Très bien. Et ça démarre dès lundi.
Le tirage de Roland, c'est jeudi.
Du tableau final, jeudi.
Ouais. Et le tableau final qui démarrera dimanche prochain. Qui a remporté ce ring? Il y avait 71% pour le oui au début du débat. Et bien 73% pour le oui à la fin du débat.
Bon, Marion, t'as été parfaite, les stats et tout. Mais t'es pas convaincu qu'en trop de chiffres, tu les chiffres.
À la fin de Roland, si c'est pas Yannick Sinner qui le soulève,
très bien,
on est d'accord.
Et trop de chiffres, Marion.
10h28 sur RMC. Merci beaucoup, Eric. On te retrouvera évidemment tout au long de la quinzaine sur RMC. Les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants avec la punchline. Elle est signée Pauline Bourdon-Sansu, joueuse du 15 de France, persuadée que les Bleus peuvent battre l'Angleterre et remporter le tournoi des Six Nations. Et bien sûr, le vestiaire, évidemment, à suivre. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. Il est 10h32, de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC avec Denis Charvet, Cédric Emence, Marion Bartoli et Simon Dutin. Marion, il y a une petite question pour toi dans le WhatsApp d'RMC. Stéphane te demande quelles sont tes joueuses engagées en qualif à Roland-Garros.
Alors, j'ai une joueuse belge qui s'appelle Géline Vendrome, qui a gagné l'US Open Junior l'année dernière, qui a gagné le Masters de fin d'année chez Junior, qui est toute jeune, qui a seulement 18 ans. Que je trouve exceptionnel pour avoir tapé avec elle. Elle me fait vraiment beaucoup penser à Kim Clijsters. Donc une.
Et elle peut aller loin dès cette année.
Et elle peut.
Elle doit taper bien fort.
Elle frappe, mais c'est hallucinant. J'avais beaucoup de mal d'ailleurs. Il fallait que je me concentre. Pour bien pouvoir enlever la balle. J'étais au taquet. Je pense qu'elle peut déjà au moins se qualifier. Après, ça dépend du tirage au sort. Il y a 4 anciennes vainqueurs d'un tournoi du Grand Chelem qui jouent en qualif à Roland Garros cette année. Donc le tableau est extrêmement fort. Et une Anglaise s'appelle Harriet Dart.
Très bien.
Qui a 29 ans. Ouais.
Eh bien, ce sera à noter, on verra si tes joueuses, on leur souhaite, iront loin dans ce tableau à Roland-Garros. Allez, c'est l'heure de la punchline. Elle est signée ce matin, Pauline Bourdon-Sansu, la demi de mêlée du 15 de France à la veille du choc décisif dans le tournoi Destination face à l'Angleterre.
RMC, la punchline GG.
On sait qu'elles sont numéro 1 au monde, que voilà, elles ont une forte équipe, qu'elles ont de l'expérience collective. Nous, on en a un peu moins. Mais voilà, franchement, dans toutes les équipes, il y a des failles. On les a analysées sur des gros matchs et c'est 50-50. Je l'ai dit aux filles encore tout à l'heure. Tous les jours, je leur dis que c'est faisable. Mais voilà, franchement, il faut être très précis, très, très précis sur tout ce qu'on fait. Si on fait une erreur avec elles, ben, en fait, on le paye cash. Et c'est ce que j'essaie de leur expliquer. L'exigence, on en a parlé pendant 6 semaines. Il faut vraiment toujours avoir le curseur très haut parce que ben, pour gagner ces grosses nations, c'est hyper important, quoi.
Alors, c'est du 50-50. Tous les jours, je leur dis que c'est faisable. Les GG, on en pense quoi? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que les Bleus peuvent battre l'Angleterre et remporter le tournoi des Six Nations et du coup le Grand Chelem demain? Petit tour de table rapide. Denis?
Non, mais...
Ah, il est adepte du mail aussi.
Le mail de Simon.
Cédric?
Je t'avais d'abord emprunté.
Bien sûr.
Oh wow.
Je suis trop cocorico, donc
j'ai envie d'y croire.
J'ai envie d'y croire, mais je crois pas.
Ah, ok. Oula. Marion.
Alors, oui, mais.
Simon.
Oui.
Ah, bah voilà, oui, je pense.
Il dit trois à l'exploit, Simon.
Alors, histoire d'avoir quand même toutes les clés en main, peut-être que vous allez changer d'avis aussi après. On va faire le point avec Pierre Thévenet, qui sera au commentaire, évidemment, demain à 17h45 pour le match sur RMC avec les Naïcs Corson. Salut Pierre.
Salut à toutes et à tous.
Salut Pierre.
Salut Pierre. Salut.
Alors Pierre, les Bleus pensent que c'est faisable. On peut pas dire que les chiffres soient vraiment d'accord avec elles.
Non mais sur le papier, c'est mission impossible, ça okay. C'est clair. Quelques chiffres qui font peur. 2018, c'est la dernière fois que les Bleus ont battu l'Angleterre. Depuis, c'est 15 défaites consécutives face aux Red Roses. Plus effrayant encore, les Anglaises n'ont pas perdu le moindre match depuis la finale 2022 de la Coupe du Monde. Elles sont sur une série de 37 victoires, toutes compétitions confondues. Elles jouent dans un championnat d'un meilleur niveau, elles ont plus d'expérience collective, un paquet d'avant plus puissant. Pourquoi y croire? Alors, parce que la France, déjà, est la meilleure défense du tournoi. Ça, il faut le dire. Parce que certaines Anglaises sont absentes aussi. Pas de Botterman, la pilier. Abby Ward, la deuxième ligne. Alex Matthews, la capitaine et troisième ligne. Tatiana Hurd, la centre. Il manque du monde dans les rangs anglais.
Ça, on le savait pas, Cédric.
Je le savais.
Il y a la
très performante arrière qui est...
Ellie Kilden est là, bien évidemment. Et il y a un vent nouveau aussi sur le 15 de France qui est incarné par François Ratier, le sélectionneur depuis janvier, qui a déjà fait progresser les Bleus en leur apportant surtout de la structure sur le terrain. Ce qui l'intéresse, François Ratier, c'est pas de savoir si elles peuvent gagner, mais comment elles peuvent le faire.
Sur le papier, elles sont plus fortes que nous. Mais il faut désacraliser tout ça. Il faut jouer un match de rugby qui dure 80 minutes avec à peu près une quarantaine de minutes de temps de jeu. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 40 minutes-là? Elles sont pas plus que nous sur le terrain. C'est pas des règles différentes. On va pas attendre que l'équipe anglaise se mette en place pour les contrer ou pour réagir. On veut, nous, prendre le contrôle du match. Nous, on a une idée et on va la jouer à fond. Après, on verra ce qu'il y a à la fin.
Il faudra prendre le match en main. Voilà ce qu'il dit. Ne pas attendre, ne pas laisser les Anglaises s'installer. Pour ça, les joueuses compteront sur le soutien de 35 000 personnes environ au Stade Atlantique. Ça va être un nouveau record pour un match de rugby féminin en France.
Ça aussi, c'est important. Faut que j'appuie sur le micro.
Ouais, c'est mieux.
Manque d'expérience, on va y arriver au bout d'un moment. Cédric,
je pense.
T'as pas changé d'avis?
Non, parce que ce qui me plaît dans les déclarations de l'entraîneur, c'est qu'il veut pas subir, il veut prendre le match. Ils ont établi des règles pour pouvoir contrer cette équipe d'Angleterre. Je pense que l'appui du public bordelais, qui est toujours chaud, ça peut aider cette équipe de France, mais elle est loin du niveau de cette équipe d'Angleterre. Pourquoi j'ai dit non? Parce que c'est difficile quand on entend les chiffres de croire en cette équipe, mais mon côté cocorico me dit, il y a ce côté français, ce côté latin, un peu match, un peu foufou, si on va de touche en mêlée, de possession. Je pense que les Anglaises sont largement favorites, vous l'avez dit, elles sont plus puissantes, elles ont un jeu mieux rodé, elles ont des joueuses qui jouent dans un championnat beaucoup plus élevé, qualité rugbystique, même s'il y a des absentes. Je les sens supérieurs à cette équipe de France, mais je le redis, mon côté cocorico me dit que il faut un début à une histoire, et là ça peut être le cas. Après, c'est comme quand nous garçons, quand tu joues face aux All Blacks, si tu fais pas le match parfait, clean, où tu laisses rien traîner, ben tu les bats. Mais si tu fais pas ça, ben c'est compliqué.
C'est important de rappeler, Marion, on a reçu justement la semaine dernière dans Bartoli Time une des joueuses du 15 de France. Il y a des failles quand même, exactement, Léa Champoy. Il y a quand même des failles à exploiter dans cette équipe.
Alors,
du 15 de la Rose.
C'est pour ça que j'étais contente d'avoir ce débat cette semaine. Parce qu'on était vraiment en plein dans l'actu. Mais moi, je m'appuie sur deux éléments. Alors, j'ai dit oui, mais là où je rejoins totalement Cédric, c'est qu'il faudra faire le match parfait. Tu peux pas concéder de pénalité, tu peux pas perdre de ballon dans ton camp, tu peux pas avoir des cartons parce que là c'est pas la peine, il faut pas rêver, de toute façon on perdra ce match. Mais en revanche, je m'appuie sur deux éléments, c'est d'abord une progression bien évidemment l'équipe de France pour commencer, et puis surtout ce match du tournoi de l'année dernière à Twickenham où là il y a une défaite, OK, ça compte dans une défaite, mais seulement d'un point, 43 à 42, où la France avait montré qu'elle pouvait réellement inquiéter les Red Roses, voire les battre. Alors, ce qui avait changé dans ce match, et c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est d'évoquer les clés de ce match, c'est qu'il y avait une attaque beaucoup plus ambitieuse des Françaises, et qu'en fait, si on se lance dans un rugby lent et physique, on ne les battra jamais parce que ce sont les meilleurs à ça. Si en revanche, on arrive à les bousculer, à les désorganiser. Et justement, tu mentionnais Pauline Bourdon-Sensu qui fait partie de cette génération de nouvelles joueuses très explosives, très rapides, qui peut mettre beaucoup de vitesse. Je pense que dans cette désorganisation, là, elles peuvent arriver à les prendre de vitesse et finalement l'Angleterre, elle, commet des fautes. Si en revanche on joue dans un rugby très physique, assez lent, qu'on n'arrive pas à les désorganiser, qu'on les empêche pas d'être dans des malls, je pense qu'on va effectivement prendre l'eau comme on l'a pris sur les 17 fois.
Attends Cédric, petit bémol sur ce que dit Marion. François Ratier ne veut pas revivre le match de l'année dernière où certes on perd 43-42 mais on est mené 31-7 et il a dit je veux plus ce truc de réaction où on se met à jouer de partout
et même si t'as la meilleure défense du tournoi, t'as pris quand même beaucoup d'essais, beaucoup de points, des ballons portés. Sur les deux derniers matchs, l'Écosse, ça a été quand même en défense moyen.
Tu parles pour les Bleus, hein?
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, on se rapproche. Moi, j'ai dit non. Alors, évidemment, l'exploit est toujours possible, mais c'est bien de rappeler quand même ce match, même si François Ratti veut pas en parler, de l'an passé, où c'était une illusion totale. C'est-à-dire qu'on a été broyé, et puis tout d'un coup, il y a ce relâchement des Anglaises qui fait qu'à un moment donné, tu reviens, tu joues ton batou, tu joues le rugby.
Et t'as une balle de match.
Tu joues contre. Oui, tu joues.
Tu te bases sur la folie, quoi.
Sur la folie, et ça peut passer. Voilà. Mais c'est miraculeux.
Moi, ce que je mets en avant.
Quand même, sur ce match, c'est la dimension physique. Il ne faut pas oublier quand même s'il y a quelques absences au niveau des Anglaises, les Anglaises, elles sont professionnelles aujourd'hui. Elles ne pensent qu'à ça. Elles sont très solides en mêlée. Elles sont très, très fortes en touche. Et il n'y a pas de faille, en fait.
Sur les ballons portés aussi.
Alors, évidemment qu'ils ont étudié tout ça. Que François, il a étudié. C'est un copain. François, je ne vais pas dire l'inverse. Et puis, il a des compétences énormes. Donc, il a étudié le jeu des Anglaises. Mais je reviens à cette dimension physique. Est-ce qu'on va être capable de résister à cette dimension physique, j'en suis pas convaincu. Donc
C'est l'une des clés du match. On a envie d'y croire quand même un peu avec toi, Simon. Fais-nous rêver.
Évidemment, parce qu'en rugby, quand on est français, il y a rien de plus important que battre les Anglais.
J'ai été éduqué
au tournoi des cinq nations à l'époque où on prenait fessé sur fessé par les Anglais.
C'est notre époque, Simon.
Oui, moi j'ai souvenir des triplés de Ronnie Underwood au Parc des Princes.
Il y a une époque où elle remettait la fessée.
Même à l'époque de Serge Blanco et tout ça.
Mais si, on les battait.
On les battait moins souvent qu'ils nous battaient. Et c'est le fameux Good Game à l'époque de Will Carling. Bon, et on repartait, on se disait, un jour, on les aura. Plus tu échoues finalement, plus tu te rapproches du jour où tu vas réussir. Vous soulignez qu'on a failli les battre l'an dernier à Twickenham. On trébuche à 2 mètres du bol de ponche, mais on n'est pas loin quand même. Et moi, ce qui me donne espoir, c'est que justement, on les regarde dans les yeux. Cédric l'a rappelé, il y a cette série impressionnante, et toutes les séries, comme vous le savez, ont une fin, et tout aussi impressionnante qu'elle soit, moi j'ai envie d'y croire parce que l'espoir y réside dans un ou deux chiffres que j'ai vus chez les copains du Middle là, en travaillant pour le sujet. Qui te font croire que peut-être que le French Flair va enfin triompher de ce rugby là de mall là. Évidemment, elles sont imprenables dans les regroupements, elles te poussent jusque derrière.
Mais elles ont des qualités derrière aussi
dans les stats.
C'est là où c'est
j'ai vu 110, on est à 20 points sur 20, 4 bonus offensifs en 4 matchs, donc voilà,
comme les Anglaises d'ailleurs,
comme elles exactement avant cette finale. Et mais nous, c'est sur la vitesse, le franchissement, 110 défenseuses battues contre 80 sur l'ensemble du tournoi, 34 franchissements contre 30.
Mais ça,
voilà le jeu. On a affronté les mêmes équipes, Denis. Face au même échantillon.
La gestion n'est pas la même. Écoute, tu sais très bien qu'au bout du
compte. Regarde, dans ce match de folie l'année dernière, tu perds quoi qu'il arrive.
Je ne te dis pas qu'on va gagner. Je te dis que avant
le coup
de sifflet final, avant qu'il y ait 30 points d'écart à la mi-temps, on a envie d'y croire.
Il
n'y
a pas d'autre manière de gagner. C'est ça le truc.
Si tu ne crois pas aussi.
Non, mais si tu ne joues pas vite et tu ne déplaces pas le ballon, tu ne peux pas gagner.
On est d'accord. Après, ce qui est remarquable, c'est qu'on peut les regarder droit dans les yeux avec des joueuses qui sont pas professionnelles, du moins quand on compare.
Donc ben oui,
c'est pas là, c'est petit cri.
Tu as raison, remettre les choses dans leur contexte.
Non, mais le championnat anglais est beaucoup plus dense. Elles sont toutes professionnelles. Il y a une continuité dans le staff et dans l'équipe qui n'a rien à voir. Donc bien sûr, au départ, on part avec des lacunes qui sont énormes. Ça, c'est certain.
C'est remarquable.
Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Puis Pierre sera au stade. Il va nous porter chance.
C'est le totem de l'équipe de France.
C'est vrai. Exactement. 17h45 demain, ce France Angleterre pour
bon week-end à Bordeaux.
Ouais. Et puis c'est ça. On joue sur une terre de rugby où ça gagne.
Est-ce qu'il faut un beau demain?
Normalement, ça va.
Ah, 17h45 à suivre sur AMC avec Pierre Thévenet, avec Delaïque Borson pour savoir si Bleu vont remporter ce tournoi des Six Nations. Merci beaucoup Pierre, bon voyage demain à Bordeaux. Il est 10h44 sur RMC, les Grandes Gueules reviennent dans quelques instants. Le j'y crois pas arrive et puis juste après ce sera l'heure du vestiaire évidemment. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du sport.
Flora Moussi. 10h47 sur RMC. Merci d'être avec nous dans les Grandes Gueules du sport. Toujours très en forme. Denis Charvet, Marion Bartoli, Cédric Amans et Simon Dutin. Je vais faire appel à votre intuition, les GG. Tout de suite avec le j'y crois pas.
RMC, les Grandes Gueules du sport. J'y crois pas.
Alors les GG, j'y crois pas, les Spurs de Victor Wembanyama vont remporter la finale à l'Ouest face à Oklahoma City. Simon.
J'y crois.
Oh waouh, Cédric.
J'y crois parce que je vais goûter Simon.
Marion.
J'y crois très fort. Allez Wemby.
Denis.
J'y crois parce que Joachim Noah m'a dit qu'ils allaient gagner.
Ah. D'accord.
Pas, bah, pas celle-là, ils vont gagner le Graal.
Carrément, ils vont être champions NBA. Alors, je rappelle le contexte. Ils se sont qualifiés hier pour la finale de la conférence Ouest après leur victoire dans match 6 face à Minnesota. 139-109, 19 points à nouveau pour Wemby. En finale, ils retrouveront donc le champion en titre OKC qu'ils ont battu 4 fois en 5 matchs cette saison. Les Spurs, à l'image de Wemby, sont ambitieux.
It's great. My mind is excited. My body is tired.
C'est génial. Mon esprit est excité. Mon corps est fatigué après ce match. Mais oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus grosse finale de conférence. C'est fou. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis que je suis né. Et maintenant, être là, c'est spécial. Donc j'espère qu'il y aura encore beaucoup de finales de conférence à venir dans les prochaines années.
Ça, c'est pas impossible pour Victor Wembanyama.
Hein, parle bien anglais.
Ah, il parle très très bien anglais. Hein, Victor Wembanyama, ouais, très bon accent. Simon, j'ai envie de me tourner vers toi parce que je sais que t'es un fan de NBA et donc tu nous dis que oui, c'est possible. Wemby peut aller battre l'armada d'OKC et de Shai Gilgeous-Alexander.
Oui, c'est possible parce que encore en début de saison régulière, ça paraît bien loin. La question c'était de savoir s'ils pouvaient retourner en play-off. Bon, ils ont quand même largement.
C'est vrai qu'ils ont repoussé au fur et à mesure les objectifs.
Bon, hein, t'as souligné le bilan qu'ils ont face à OKC en saison régulière. Aucune autre équipe. Alors, c'est une fois dans la conférence Ouest pour les affronter plus de deux fois dans la saison, mais aucune autre équipe de cette conférence Ouest n'a présenté un bilan pareil face aux champions en titre. Donc, c'est la némésis, à la kryptonite de ce champion en titre à qui on promet le back-to-back. On y croit parce que Wemby et parce que autour de lui quand même il est sacrément bien entouré avec des joueurs qui ont appris à prendre leurs responsabilités sans lui. Donc voilà, la deuxième star de Oklahoma est blessée depuis le premier tour des playoffs. Jalen Williams, il va revenir, ouais. Mais bon, à quel niveau est-ce qu'il va manquer un petit peu de rythme. Donc oui, j'ai envie d'y croire. Et puis il y a la Wembanyama, il a un duel dans le. Bon, en gros, il aime pas trop Chet Holmgren, l'intérieur de Oklahoma, qui est lui aussi un des phénomènes de cette nouvelle génération.
S'il te plaît, quand même.
Et il a quand même toujours envie de se le farcir. Donc, à ce titre-là, moi, j'ai envie de croire.
Ils ont battu Oklahoma,
San Antonio.
La 4 fois sur 5
cette saison.
Oui, mais diminué, je crois.
San Antonio qui.
Puis il y a peut-être la lutte à distance pour la MVP, non, avec Shai Gilgeous.
Et puis, de toute façon, Wembanyama, il a sa propre trajectoire. Il dépasse toujours les objectifs qu'on lui fixe ou qu'il s'est fixé. Et puis, encore une fois, cette culture quand même de la gagne à San Antonio, qui a plus joué les playoffs depuis 2016 ou 2017, ils vont retrouver une atmosphère, quelque chose, il va se passer quelque chose. Donc,
avec lui, tout est possible. Avec lui, tout est possible, surtout.
Ça faisait 9 ans qu'ils n'étaient pas qualifiés. Non, mais surtout au Wemby pour sa deuxième saison en NBA, ce qu'il arrive à faire, il est déjà élu meilleur défenseur, c'est monstrueux. Quoi. C'est absolument monstrueux, donc moi j'y crois à fond. Oui.
Rien de choix, arrêtez Victor Wembanyama. On parlait de Kylian Mbappé tout à l'heure dans la une des GG. Vous le savez, le Real Madrid joue demain face au FC Séville. Est-ce que j'y crois pas, Mbappé n'est pas vraiment brouillé avec son coach Simon.
J'y crois pas.
Marion.
Non, j'y crois pas du tout, il est archi brouillé.
Denis, j'y crois pas. Cédric.
J'y crois pas.
Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous le savez, on avait Edgar Grollo tout à l'heure, correspondant à Madrid, qui a assisté à la conférence de presse d'Arbeloa. Et justement, on va écouter le coach espagnol sur cette prétendue brouille avec Kylian Mbappé.
Je viens de le voir, je comprends que ce genre de choses fasse les gros titres, mais ce dont il a parlé en zone mixte, on en avait déjà parlé avant. Je sais comment se sentent les joueurs quand ils ne jouent pas, et j'aime ça. Pour moi, c'est beaucoup plus normal qu'il n'en paraît. Le mieux, c'était qu'il joue une partie de la fin du match. S'il n'y avait pas de match ce week-end, ça aurait peut-être été différent. Il n'y a rien de plus. Ce qui s'est passé ces derniers jours est tout à fait normal. Ma relation avec Mbappé continue d'être la même.
Ha pasado estos días y mi relación con Kylian Mbappé sigue siendo la misma.
Alors, comme ou pas comme, est-ce que ça vous fait changer d'avis, la déclaration d'Arbelo hein?
Comme.
Mais c'est de la pure comme, c'est les drapeaux blancs sans sortir. Il a dû prendre, on a dû lui tirer les oreilles.
Il est obligé, je pense qu'il est. En plus, il ne peut pas.
Il peut pas critiquer Mbappé sur sa performance sportive. Je reviens par rapport au débat de tout à l'heure. Là, c'est de la pure comme pour amener de la stabilité, pour éviter éteindre le feu. Où il y a
sans les violons.
Ouais, exactement.
Oui.
C'est dommage, à la radio, on ne voit pas le gros extincteur qu'il a à la main, là, Arbelo.
D'Arbelo.
D'un côté, l'autre, le drapeau blanc.
Oui, non, mais
autant, en effet, on peut imaginer quand même que c'est un monté en épingle par nos confrères espagnols qui, on les connaît, cherchent toujours à envenimer un petit peu les choses.
Ce, ce que dit Mbappé est clair.
Parce que la première réaction de Mbappé, quand il dit ouais, et pourquoi j'étais remplaçant, parce qu'il m'a dit que j'étais le quatrième attaquant. Une fois qu'on a compris qu'il n'était pas que ironique pour éviter la question, qu'on s'est dit, évidemment, c'est lui qui met un petit coup de zippo sur la flaque d'huile. Donc évidemment qu'il y a un souci et qu'il attend avec impatience le remplaçant.
On verra effectivement si Kylian Mbappé, lui aussi, va mettre un petit peu d'eau dans son vin pour aplanir tout ça. Les amis, j'y crois pas. Neymar va disputer la prochaine Coupe du Monde avec le Brésil. Denis.
Oui.
Il y va ?
Si.
Marion.
Oui.
Ah.
C'est présidentiel, il va y aller.
Simon.
Oui, j'y crois.
On rappelle que la Coupe du Monde démarre dans un mois maintenant. Les sélectionneurs continuent d'annoncer leur liste. Celle de Carlo Ancelotti, ce sera lundi, avec ou sans Neymar. Le joueur de Santos a été préconvoqué déjà, mais son cas fait évidemment débat au pays. Cédric, pourquoi tu es autant convaincu qu'il sera la Coupe du Monde?
Parce que le président le demande, parce que c'est un grand champion, même s'il n'est pas aujourd'hui sportivement au top de sa carrière.
Il y a des hauts et des bas, effectivement, avec Santos.
Oui, il y a surtout des bas.
Mais il a fait 14 matchs et là, il joue 90 minutes pour tous les matchs.
Ouais, il est en train de revenir.
Comme
donc
par hasard.
Il est en train de revenir. Je pense qu'il est en train de se préparer. Il la fera. Puis je vous le dis, c'est ce que je déteste dans le sport, mais c'est politique. Ils vont le mettre.
On aime ou on n'aime pas Neymar, mais
l'impact qu'il a au Brésil est colossal.
La seule vérité, c'est que tous ses partenaires le demandent.
Mais bien sûr.
De la CELASAO.
C'est dire l'état de la CELASAO.
Oui, non, mais ça veut dire qu'il l'aime, qu'il l'apprécie, qu'il
meilleur
le respecte.
Meilleur buteur, mais meilleur passeur, la
CELASAO. Tout ce qui se passe en dehors, un peu comme ce que se passe avec Mbappé aujourd'hui, ils s'en foutent. C'est comme les joueurs d'équipe de France aujourd'hui. Tu crois que ça les touche ce que Mbappé joue, vit au Real? Personne, ouais. Ils s'en foutent. Et là, c'est pareil. Donc, il est appelé, c'est un appel de des joueurs. Et puis Ancelotti, c'est un mec qui sait prendre les égos, qui sait jouer avec les égos et qui va savoir le gérer.
S'il le prend pas, il va falloir qu'il s'explique, qu'il va se mettre une drôle de pression, par contre.
C'est-à-dire, c'est ça, à partir du moment où il est prêt, Marion l'a rappelé.
Un fiasco, la Coupe du Monde.
Non, mais parce que, encore une fois, parce que c'est le mec qui veut pas grandir, le syndrome de Peter Pan, mais on parle d'un géant du football mondial, d'un des plus grands joueurs de ces 10, 20 dernières années, ou peut-être même de l'histoire du football. Donc, si les blessures l'avaient laissé tranquille, ce serait indiscutablement une légende. Donc, t'as un Neymar qui est prêt, et encore une fois, c'est un Neymar qui est patrimoine national au Brésil, mais qui va pas arriver dans le statut du papa, du patron sur qui tout repose, parce que tu peux imaginer que un Neymar qui rentre à 30 minutes de la fin quand t'es un peu rincé en face, c'est quand même un sacré avantage.
Après,
s'il est capable de tenir
accepter d'être sur le banc aussi, c'est une autre histoire. Après, nous, une Coupe du Monde
il
avec Neymar.
Revient tellement loin, à mon avis.
Avec Neymar, Messi et Cristiano, on n'est pas.
Continue,
il persévère.
Il est bien, il attire l'imitation.
10h05. C'était bien.
C'est impressionnant, non, Denis.
Moi, je suis avec moi.
Attends, il faut réécouter. Vas-y, remets.
Ça va bien, toi, bonjour. Aïe, aïe, aïe.
L'imitation est tenue.
Je suis fan, moi, du joueur.
Je vois ça. 10h56 sur RMC. La dernière ligne droite des GG, c'est dans quelques instants. On va ouvrir les portes du vestiaire. Et puis sur le buzzer, on parlera de Max Verstappen qui profite de la pause en F1 pour aller faire une petite pige en endurance. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.